Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Paris-Brest, millefeuille, opéra, éclair au chocolat. Mmh. Plus que jamais en ce moment, on a besoin de douceur. Alors, on vous dévoile les grandes histoires pâtissières dans un instant. Et puis surtout, on va les goûter aussi, vous allez entendre.
Ah bah j'espère surtout, oui.
Mais comment on va se gêner, tiens. Mais juste avant, parlons un peu des arts de la table. Les assiettes, les verres, les couverts, c'est vrai, ils font partie du décorum. Et s'ils influençaient notre goût, et bah c'est la question qu'on se pose ce samedi matin. Là, on déguste ce bon confit de canard, justement, de la Maison Birabane, dans de belles assiettes en céramique. C'est quand même plus agréable que de le déguster dans une assiette en carton avec des couverts en plastique.
Ah hein, c'est complètement différent. C'est sûr que le contenant amène l'émotion du goût.
Les chefs aussi accordent beaucoup d'importance hein, dans leur restaurant à ça. Hein.
Alors de plus en plus, alors j'ai envie de vous dire qu'en tant que chef, des fois même, c'est peut-être un peu trop, parce qu'on a tendance à d'abord choisir un contenant pour y mettre un contenu à l'intérieur. Et que normalement, c'est quand même l'inverse qui doit se produire. C'est le goût qui amène au contenant, pas le contenant qui amène au goût.
La mode d'avoir des assiettes de 90 cm avec juste un tout petit truc au milieu.
Je suis d'accord. mais à la maison, ce qui est bien, puisqu'on est privé de restaurant en ce moment, bien, c'est de sortir l'argenterie et puis la belle vaisselle pour se faire plaisir. Quand
mais
même.
Ça participe au repas. Mettre la table, sortir ses assiettes, sortir les couverts, faire une belle table, c'est quand même sympa.
Hier, j'ai sorti les porte-couteaux.
Ah,
j'ai
oui.
les porte-couteaux de mon mariage.
Ah, c'est bien.
Je les ai mis, mais ils sont dans le fond du placard. Je ne les utilise jamais. Je les ai sortis.
Ils sont en quelle forme, les vôtres? Parce qu'il y en a plein. Hein. C'est des petits chiens allongés
ou non,
des petits...
c'est les fables de La Fontaine.
Ah, ouais.
Chaque porte-couteau représente une fable. Mais c'est
sympa.
Vrai que c'est beau. Quelque part, c'est un conditionnement. C'est du bonheur, c'est de la joie. Donc, on se prépare à bien manger.
Et les verres font aussi partie, évidemment, des arts de la table.
Bien
très
entendu.
Important d'avoir des beaux verres.
Alors, avant de parler des contenants qui ont donné leur nom au contenu, réfléchissez, chers auditeurs. Je suis sûr que vous avez des noms de plats qui vous viennent. Eh bien, juste avant, on vous emmène rencontrer une artisane céramiste à Paris. Elle s'appelle Marion Gros. Elle travaille pour plusieurs grands chefs, hein, comme Hélène Darroze, Arnaud Lallemand ou Grégory Marchand du Frenchy. Et Julien Amat s'est incrusté dans son atelier. Elle nous parle justement de l'importance du contenant dans la réussite d'une belle recette.
Les chefs, quand ils viennent à l'atelier pour un premier rendez-vous, j'observe qu'il y a des formes qui reviennent toujours. On mange beaucoup plus à la cuillère, les assiettes deviennent beaucoup plus rondes. L'assiette standard devient, moi je crois, une assiette creuse. Cette forme de petite assiette, un autre chef pour qui je travaille, j'aime bien comment il en parle, il dit que c'est l'assiette pour ce qui dégouline. Quand on croque dedans, il faut qu'il y ait un truc en dessous pour que ça... Voilà. La couleur de l'assiette peut tout à fait influencer le goût. Prenons une soupe de potimarron, donc bien orange. Si on la verse dans un bol blanc ou qu'on la verse dans un bol bleu nuit, il me semble qu'on n'envisage pas du tout le goût de la même façon.
Et c'est vrai. Merci Marion Gros. C'est vrai que la couleur du plat influence le goût du plat. Moi, je suis assez d'accord avec ça, Yves.
Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai qu'on est influencé par ce goût-là. Après, ce qui moi me perturbe le plus, c'est justement ça, quand elle explique qu'on mange de plus en plus avec une cuillère.
Voilà.
Moi, j'aime bien le couteau, j'aime bien la mâche. Et c'est vrai que de par ses contenants, on fait des recettes souvent qui sont, comme on dit vulgairement, prête à manger avec la paille.
Oui, mais
croquant,
c'est l'époque,
mâchon.
C'est une époque régressive. Voilà, c'est vrai qu'on veut se retourner un petit peu en enfance avec ce fait de manger à la cuillère. C'est ça la cuillère, hein, c'est l'enfance aussi. Hein.
C'est l'enfance, mais justement, il faut que l'enfance, c'est un moment qui est particulier, c'est un moment de douceur. Mais quand même, quand on a un morceau de viande, qu'on a cette mâche, qu'on a ce juteux, quand on prend ce confit, on ne peut pas le manger à la cuillère.
Ah non, ça non.
C'est pas possible, parce que ça croque.
Avec
ça
les doigts.
Ça fond aussi. Voilà.
Devinette, les amis, est-ce que vous savez ce que sont des plats métonymiques?
Oui, ce sont des plats qui ont donné leur nom à des recettes.
Exactement, c'est quand le contenant donne le nom au contenu. Alors là, je suis sûr que vous avez plein d'exemples qui vous viennent. Réfléchissez à la maison ou en voiture. Yves?
Oui, les grands classiques, le sud-est, là, le tian.
Le tian?
Le tian, l'Alsace, le
bake-off.
Le bake-off, hein, c'est un beau plat en terre cuite, le bake-off avec un couvercle. Et on met plusieurs types de viande,
voilà,
des oignons, de la pomme de terre.
C'est le genre de pot-au-feu. Après, il y a encore plus simple, tout simplement, la marmite, Laurent.
Oui, c'est vrai.
La marmite diépoise.
Mais chez vous, le cassoulet. La cassole donne son nom au cassoulet. Hein. Et puis, si on veut voyager un petit peu, Olivier, on a pas mal d'exemples aussi.
La tagine du Maghreb, la paella en Espagne, cette grande poêle qui donne son nom.
Arrondi, avec les poignets.
On pourrait même dire peut-être le bento au Japon, cette boîte qui sert aussi à présenter le déjeuner avec tous ces petits compartiments, toutes ces petites choses différentes.
Qui revient en force aujourd'hui, puisque avec les restaurants fermés, beaucoup de gens font la gamelle pour l'emporter au bureau. Et le bento en fait partie. Donc voilà, c'est vrai que c'est amusant, c'est ce qu'on appelle
sucré.
Les plats métonymiques.
Et en sucré, on oublie la tourtière. Eugénie les Bains, le temple, le lieu de Michel Guérard.
Bien sûr, mais
la tourtière landaise.
Mais la tourtière, c'est une pâte feuilletée très fine, la tourtière.
Oui, mais au départ, c'est une plaque de pâtisserie. Ah. Passe-moi la tourtière, c'est-à-dire on posait des pâtes dessus pour cuire au four.
Ah, ben voilà, on en apprend tous les jours, les plats métonymiques. Allez, côté sucré, l'opéra, le millefeuille, le Paris-Brest ont aussi des choses à raconter. Ces classiques font partie de vos desserts préférés. Eh bien, ils seront avec nous dans un instant et on va vous raconter leur histoire.
Europe 1, Laurent Mariotte.
Alors dites-moi, chers auditeurs, est-ce que vous avez remarqué la queue devant les pâtisseries ? Est-ce que vous avez entendu les clients passer commande pour des desserts familiaux le week-end ? Eh bien oui, je vous dis oui, parce que j'ai fait ma petite enquête et j'entends beaucoup de gens commander de beaux desserts pour 6, pour 8.
Je crois que vous aviez fait la queue devant les pâtisseries aussi.
Je la fais aussi, je la fais aussi, absolument. Paris-Brest, Opéra, Millefeuille, Saint-Honoré, Éclair... C'est des jolis noms, c'est autre chose que coronavirus quand même.
Ah, hein, c'est des noms qui parlent, c'est des noms qui amènent la boulimie, qui amènent la joie et la bonne humeur, Laurent.
Et quand on parle de dessert, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une personne qui s'invite à notre table régulièrement quand il y a du sucré, c'est Marion Sauveur. Tiens, bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver. Elle adore le
mais
sucré.
Oui, on le voit sur gourmande.
Ah bah oui, puis, là, gaulée hein, sur Instagram, on vous voit avec vos petits desserts régulièrement, hein, Marion. Tiens, à propos, posez-vous la question aussi à la maison. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance typique de la pâtisserie du dimanche, Marion ?
Alors moi, c'est le fraisier, vous savez, au printemps, c'était l'anniversaire de ma maman, et donc à ce moment-là, on avait toujours un fraisier à la maison.
C'est chouette, le
crémeux, cette crème avec les fraises bien fraîches, là, j'adore.
Vivement le printemps, hein.
Oui.
Olivier ?
Alors moi, c'était le merveilleux, et on en mangeait chez ma grand-mère qui allait dans une pâtisserie pas très loin de chez elle, et j'ai toujours une passion pour ce dessert, très léger en même temps, typiquement du nord de la France.
Ah oui, c'est
la
meringue.
Ah oui, c'est à Bruxelles. Ouais.
Meringue, crème fouettée, des copeaux de chocolat. Yves ?
Oh ben moi, en Béarn, de toute façon, le dimanche, c'est le gâteau russe. C'est une dacquoise avec une crème pralinée qui a été créée à Oloron-Sainte-Marie par la pâtisserie Artigarède. Ça fait la troisième génération que ça existe.
Ah bah dis donc.
Et là, il y a le fils Michel qui a repris le flambeau. Et en Béarn, il ne se passe pas une sortie d'église, il ne se passe pas un apéritif, il ne se passe pas un après-midi sans qu'on croque dans le russe de la maison Artigarède.
Et dans les Vosges, Laurent, alors
Moi, c'était le Paris-Brest. À chaque repas familial. Non, pas le Paris-Épinal, mais le Paris-Brest qu'on allait acheter chez Ayotte, qui est une boulangerie-pâtisserie qui n'existe plus aujourd'hui à Thaon-les-Vosges. Et j'adorais effectivement ce moment entre le croustillant de la pâte à choux et puis cette garniture, voilà, cette belle crème au beurre praliné. On en parlera dans un instant du Paris-Brest. Tiens, Marion, est-ce qu'il y a un truc pour savoir si on a affaire à un bon pâtissier, part la queue devant le magasin ?
Alors déjà, c'est de savoir...
Le prix.
Le prix, peut-être. Mais si les pâtisseries, déjà, sont faites maison, il faut demander, regarder aussi, ouvrir les yeux, si elles se ressemblent vraiment toutes.
Mais vous avez raison, parce qu'effectivement, il y a pas mal de... Il faut le dire, il y a pas mal de pâtisseries congelées chez certains
Malheureusement,
pâtissiers.
Malheureusement,
oui. Pas tous.
Non, heureusement. Alors avec les yeux, il faut qu'elles soient belles, mais pas trop parfaites. Il faut qu'il y ait des petites imperfections, bien sûr. Puis je pense qu'il faut goûter, il faut acheter par exemple un éclair. L'éclair, c'est le gâteau idéal pour savoir si la pâtisserie est bonne.
C'est avec comme le fromage de tête chez le charcutier,
mais
c'est
oui,
pareil.
C'est ça.
Oui, c'est bien. Ouais. La pâte à choux croustillante.
Pâte à choux et la crème pâtissière, il faut qu'elle soit
fondante, mais pas trop non plus.
Voilà, et le glaçage.
Un bon glaçage, voilà.
Tiens, parlons un petit peu de l'histoire de l'éclair, Olivier. Vous qui êtes le monsieur histoire à la table d'Historiquement Vôtre avec nos amis Stéphane Bern et Mathieu Noël chaque jour à 16h.
Ah bah oui, l'éclair, c'est une des pâtisseries les plus populaires. Hein. Elle serait née vers 1850. Son ancêtre, c'était en fait ce qu'on appelle le pain à la duchesse. Au départ, il est long, il est fourré de crème pâtissière, il est riche en œufs et en sucre. On y ajoute de l'essence de café ou des copeaux de chocolat. Mais le glaçage pour finir la pâtisserie arrive plus tard.
Hein. C'est le 20e après,
siècle.
Ah oui.
Et puis surtout, son nom vient du fait que, hop, on le mange
en un éclair. C'est un coup de foudre pâtissier. Tiens, vos adresses pour acheter de bons éclairs, Yves.
Allez, moi je vais rester très béarnais parce que ça m'a bercé toute mon enfance. C'est la pâtisserie Saint-André, Jean-Guy l'Étendard, qui fait un éclair, je peux vous assurer, un éclair au café. Là, c'est l'équilibre parfait entre le croquant, le crémeux et l'amertume.
Marion.
Les éclaireurs à Lyon sont spécialisés dans les éclairs et ils font un caramel au beurre salé qui est délicieux.
Ah bah une dernière pour la route, Olivier.
L'éclair de génie, évidemment, aussi, de Christophe Adam.
Christophe Adam, oui.
Qui a décuplé les éclairs sous toutes les formes possibles et imaginables.
Alors, autre douceur très appréciée et puis chasse gardée du pâtissier, c'est l'opéra. Et ça, c'est tout un programme aussi, Marion.
Ah oui, le gâteau a été créé en 1955 par Cyriac Gavillon.
C'est récent.
Oui, exactement. Et c'est sa femme qui a trouvé son nom opéra parce qu'elle trouvait que la surface lisse du gâteau, couleur ébène, ressemblait au plancher de la scène de l'opéra. Et est-ce que vous savez pour qui travaillait Cyriac Gavillon ?
Pour Daloyau.
Exactement, pour cette grande pâtisserie traiteur.
Oui, et Daloyau, c'était autrefois le pâtissier de Louis XIV. Hein, et on trouve encore aujourd'hui chez Daloyau des opéras. C'est un peu le début de la pâtisserie moderne, hein, ce gâteau effectivement carré, parce qu'avant, tous les gâteaux étaient ronds, Yves.
Oui, tous les gâteaux étaient ronds. C'est le premier, d'ailleurs, c'était un peu la spécificité de ce gâteau. Il commençait vraiment à réfléchir, à amener voilà, un visuel, à utiliser des formes géométriques différentes que le grand classicisme du rond.
Et puis, pas d'alcool dans le dessert.
Pas d'alcool, bien imbibé au café. Voilà, et un beau contraste, une fois de plus, entre un crémeux, le chocolat et l'amertume du biscuit imbibé au café.
Et moins de sucre, hein, c'est l'époque où on a commencé à désucrer un petit peu les desserts. Il y avait une guéguerre aussi entre deux grandes maisons autour de l'opéra. Hein.
Oui, alors. on n'imaginait pas que c'était Daloyau en fait, qui avait créé ce dessert. On pensait que c'était Le Nôtre, puisque Gaston Le Nôtre a pendant très longtemps revendiqué en fait, la paternité de ce gâteau. Mais en fait, sa maison a été créée en 1957, donc deux ans après la création de ce gâteau. Et finalement, le journal Le Monde a mené l'enquête et en 1988 a expliqué que la paternité n'était pas en fait à Le Nôtre, mais bien à Daloyau.
Et ben voilà. Alors, une adresse pour manger un bon opéra ?
Pascal Lac à Nice.
Ah oui, absolument, grand pâtissier. Allez, ne bougez pas, on continue à parler pâtisserie de pâtissier dans un instant. Du Paris-Brest au millefeuille, ça va fondre et croustiller.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Rassembleuse, réconfortante, les pâtisseries artisanales du boulanger-pâtissier sont un vaccin contre la morosité. Alors avec moi pour en parler, trois becs sucrés, Marion Sauveur, Olivier Pouls et Yves Condebord. Mmh. Et à l'instant où je vous parle, on nous amène un très très beau Paris-Brest. On vient de parler effectivement de l'opéra et de l'éclair au chocolat. Maintenant, place au Paris-Brest et au millefeuille. On a fait un sondage, hein, Marion, sur le groupe Facebook des bons vivants sur Europe 1.
C'est et ça, qu'est-ce que entre ça l'éclair, l'opéra, le millefeuille et le Paris-Brest. Et c'est le Paris-Brest qui gagne juste devant le millefeuille.
Ah ben voilà, le Paris-Brest, pâtisserie préférée de nos auditeurs qui nous retrouvent sur le groupe Facebook des Bons Vivants, donc c'est limité. Moi sur Instagram, je m'étais amusé à faire un petit sondage entre l'éclair au chocolat et l'opéra, et c'est l'éclair au chocolat loin devant qui a gagné aussi. Donc vous voyez, chacun ses petites douceurs, c'est quoi la vôtre Yves ?
Ah moi, ma petite douceur, ça reste quand même le Paris-Brest, voilà. En plus je suis amoureux de vélo Laurent.
Ah, mais forcément. Voilà.
Mais ça y fait, le Tour de France.
Mais il est d'ailleurs avec son collant de cycliste. Il est venu en cuissard aujourd'hui, Yves Condebord.
Non, mais vous savez que ça a été créé justement par rapport à la course Paris-Brest. Ça a été demandé, c'est les fondateurs de la course qui ont demandé à un pâtissier, Louis Durand, qui se trouvait à Maison Lafitte, de créer un gâteau en l'honneur de cette course. C'est pour ça qu'il a fait cette roue de vélo.
Ça ressemble à une roue de vélo,
mais
oui.
Mais le plus beau, Laurent, c'est qu'aujourd'hui, la pâtisserie Durand existe toujours à Maison Lafitte. Et on retrouve l'authentique Paris-Brest.
Alors là, on en a un authentique aussi.
Et après en avoir mangé, il faut aller pédaler un peu quand même. Hein.
Ah non.
Bah, alors, c'est bon, mais quand même.
Non,
hein.
C'est onctueux, c'est moelleux, c'est léger.
Mais...
Alors nous avons un authentique aussi Paris-Brest avec nous, c'est celui de Sébastien Godard, pâtissier parisien qui est spécialisé vraiment dans les classiques. Le vrai Saint-Honoré, le vrai millefeuille, le vrai opéra. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Vous l'avez dégusté
c'est un souffle.
Avant moi.
C'est un délice.
C'est une pure merveille. Olivier, on ne peut pas dire qu'en ayant mangé ça après, on doit aller faire la sieste. Ce n'est pas possible. On est dans la légèreté.
Ah oui.
On est dans l'onctuosité. Je trouve qu'il y a un équilibre entre le praliné, la pâte à choux. C'est merveilleux.
Mais bien sûr, mais vous ne m'empêcherez pas de faire la sieste quand même.
Et ce petit croquant, vous le sentez, ce petit croquant?
Oui, c'est la pâte à choux traditionnelle avec des amandes hachées. Et à l'intérieur, une crème pâtissière additionné d'une crème au beurre quand même avec du praliné. Hein. C'est pas mal ça.
Mais c'est bon.
Et je crois qu'il met de la pâte de noisette en plus, Sébastien Godard, à l'intérieur aussi.
Je pense
aussi que
vous avez raison. C'est vrai que le fond de palais, on a ce côté noisette qui apparaît, qui est très agréable. Ça amène une longueur de bouche supplémentaire. C'est un petit régal.
On peut le dire comme ça, une petite pépite. C'est souvent détourné par les pâtissiers, Olivier. Hein.
Bah oui, je vous demandais tout à l'heure si vous mangiez du Paris épinal, mais effectivement, il y a beaucoup de pâtissiers qui sont amusés à le faire. Vous avez un Paris Rio, un Paris Deauville, par exemple,
oui,
que fait Éric Fréchon. Il y en a d'autres.
Le Paris Cancale, notamment, d'Olivier Rollinger. C'est un souvenir mémorable pour Christian et Joël, nos auditeurs, justement, qui nous en ont parlé.
Je crois même qu'il y a un Paris Rennes que doit faire Christian Lesquer.
Alors, puisqu'il faut terminer sur une note sucrée, hein, obligée, passons au millefeuille. Alors là, attention, on ne lésine pas avec la pâte feuilletée parce que c'est vraiment toute la structure de ce gâteau, quoi.
Ouais, c'est toute la structure de ce gâteau et surtout, c'est la pâte la plus délicate et la plus difficile à réaliser. Et c'est vrai que, honnêtement, les cuisiniers, on sait la faire, mais il faut la laisser faire aux pâtissiers. C'est eux qui ont la maîtrise et l'habitude.
On l'achète chez le boulanger pâtissier.
N'hésitez pas à aller voir votre boulanger, vous lui demandez un morceau de pâte feuilletée, il vous la vendra sans aucun problème.
On en trouve de très bonnes aussi, même surgelées, sans additifs, sans conservateurs. On sait de quand ça date, Olivier, le millefeuille ?
Alors oui, les premières traces, c'est 1742, hein, c'est le cuisinier moderne de Vincent de la Chapelle, mais à l'époque, il n'est pas du tout présenté comme aujourd'hui, puisqu'on parle plutôt de garniture avec de la marmelade, d'abricots, de la gelée de groseille, des framboises, etc.
Ah, des confitures, carrément, à la place de la crème pâtissière.
Eh oui, mais parce que la crème pâtissière, elle arrive beaucoup plus tard, c'est 1873 et Jules Gouffet, et à l'époque, le millefeuille est beaucoup plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trois couches, trois couches de pâte feuilletée, deux couches
de garniture.
Et est-ce que vous savez combien il y a de feuilles dans un millefeuille, tiens ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que vous avez compté ?
Ah oui, on le sait avec vous, c'est les tours qu'on fait en pâte feuilletée. Eh bien, il y en a 729.
Ah, pas mal, 729 quand même, ouais. Avec simplement trois couches.
Avec les trois couches et tous les tours.
Et parce qu'il faut le rappeler que le feuilletage, c'est une pâte faite avec du beurre et de la farine. C'est ce qu'on appelle la détrempe. Il y a des pliages et c'est ces pliages, une fois à la cuisson, qui vont se développer et qui donnent plus de
729 feuilles.
700 couches, ah oui, c'est pas mal.
Moi, je suis désolé, Laurent, j'ai pas le temps de les compter. Je suis trop gourmand. Excusez-moi.
Vos adresses, tiens, pour acheter et déguster un bon millefeuille,
alors,
Marion.
Alors, avec glaçage, sans glaçage, et modernisé avec la framboise en été chez Alain Rolancy, c'est à Lyon, un meilleur ouvrier de France. Ils sont délicieux.
Yves. Moi, je vais aller en Bretagne. Je vais aller dans ça s'appelle la maison du boulanger, l'Anilis, dans le Finistère, Michel Izard, qui est boulanger, au départ cuisinier, boulanger, et qui fait un millefeuille. J'ai un souvenir exceptionnel. J'y suis allé, je comptais manger du pain, il m'a proposé un millefeuille, j'ai croqué dedans, j'ai oublié le pain. J'ai pensé comme millefeuille.
Ça, c'est beau, ça.
Non, mais c'était, Laurent, c'était soufflé. Ouais, c'était croustillant.
C'est ça qui est bon. Oui, c'est aérien, effectivement.
C'était aérien. Des fois, on les voit, c'est un peu maîtrisé, ces plats, tandis que là, il était un peu comme une montgolfière.
Il faut du feuilletage.
Olivier.
Et en Haute-Garonne, Daniel Moreau, à la pâtisserie Benoît à Riom.
Eh ben voilà, de belles adresses. Eh bien moi, je vous conseille celui de Jacques Génin à Paris. C'est sur commande, il fait des pâtisseries dans sa belle chocolaterie. Et à propos de Jacques Génin, il a commis ce très beau livre, La merveilleuse histoire des pâtisseries racontées par Michel Tanguy. C'est chez Grund. C'est un très beau livre avec tous les grands classiques dont on vous a parlé, plus bien d'autres, effectivement. La brioche, le gâteau de Savoie, le moka, le Saint-Honoré, on aurait pu dire aussi.
Oui, complètement.
Eh bien, ce livre raconte la belle histoire de toutes ces grandes pâtisseries et on retrouve tous les desserts reproduits par Jacques Génin à l'intérieur. C'est la merveilleuse histoire des pâtisseries chez Grund.
Vous parlez de Jacques Génin, tarte citron basilic.
Ah, il en fait tomber le plexiglas qui nous isole, dites donc. Allez, ne bougez pas. Et si vous venez seulement d'arriver sur Europe 1, vous retrouverez le podcast avec toutes ces petites douceurs, bien entendu, sur europe1.fr.
Europe 1, Laurent Mariotte.